VOA Afrique, le monde aujourd'hui, à Washington.
Bonsoir le monde aujourd'hui, bienvenue dans cette édition du lundi 3 octobre 2022. Avec vous, Eric Manirakidza, voici d'abord le sommaire. Au Burkina, report à mardi de la visite d'une délégation de la CEDEAO après le changement de pouvoir. Au Tchad, les participants au dialogue national divergent sur l'éligibilité des autorités de transition.
Nous, on a eu un cas de mort subite. Et dans ce cas, le PSMT et les membres du gouvernement sont éligibles.
Ce communiqué n'engage que le signataire Moussa Faki Mahamat.
En Somalie, au moins 20 morts dans 3 attaques suicides des islamistes Shebab. Éthiopie, les rebelles du Tigré annoncent un redéploiement de leurs troupes hors de la région de l'Amhara pour contrer l'offensive conjointe des forces de l'Éthiopie et de l'Érythrée plus au nord. Dans 10 minutes, vous suivrez également l'économie et les sports, mais d'abord le journal. Au Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré a été désigné hier chef de l'État. Le calme et la tranquillité est revenu à Ouagadougou. Une mission de la CEDEAO est attendue demain mardi dans la capitale burkinabé de Ouagadougou. Le point de la situation avec notre correspondant Lamine Traoré.
La vie a repris son cours normal ce lundi à Ouagadougou après 3 jours de tension. Entre tirs à l'arme lourde et des manifestations dans les rues, le Burkina s'est réveillé ce lundi avec un nouvel homme fort. Le capitaine Ibrahim Traoré a été désigné hier chef de l'État, validé selon le capitaine lui-même par la hiérarchie militaire, mais aussi par des manifestants. Il a entamé des concertations dès hier avec les secrétaires généraux des ministères. Le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, après une médiation des autorités coutumières et religieuse, a accepté de démissionner. Il s'est envolé pour Lomé aux dernières nouvelles. Dans une vidéo enregistrée, il a annoncé sa démission. Il a aussi indiqué que ces événements ont fait 2 morts et 9 blessés. Il a par ailleurs invité les nouvelles autorités à être intègres et patriotes pour faire face à la lutte contre le terrorisme. La mission de la CEDEAO qui devait se rendre ce lundi à Ouagadougou a été reportée à demain mardi pour des raisons logistiques, selon des sources proches de l'institution. Le capitaine Ibrahim Traoré a déjà montré les couleurs. Tout est prioritaire et urgent, selon lui. Il faut donc aller vite. Il a promis les prochains jours l'organisation d'assises qui vont désigner le président de la transition. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Le porte-parole du gouvernement guinéen, Ousmane Diallo, a estimé lundi qu'il n'y avait pas à condamner ou à apprécier le putsch au Burkina Faso. Il s'agit de dire que le mal dont souffre le Burkina n'a pas encore trouvé de remède par la CEDEAO ou par tous ceux qui s'intéressent à cette question. Selon lui, il fallait d'abord écouter les Burkinabés, qu'ils posent leurs problèmes sur la table et qu'on essaie de les accompagner à trouver des solutions qui répondent à leurs préoccupations. Un militaire de l'armée congolaise soupçonné d'avoir tiré sur un homme d'affaires a été tué, son corps brûlé par des habitants en colère dans l'est de la RDC. La tension persiste dans la localité de Kamanyola, dans le sud Kivu. Deux jeunes ont manifesté sur la voie publique et ont érigé au moins 10 barricades sur 7 kilomètres. Ils réclament entre autres le remplacement de la nouvelle unité de l'armée. Arrivée récemment dans la zone, l'ouverture d'une enquête a expliqué le président de l'association des jeunes de Kamanyola. La présidente tanzanienne a mis en garde lundi les membres critiques de son gouvernement contre toute velléité de contester son autorité après avoir remanié son cabinet et limogé la ministre des Affaires étrangères. Samia Suluhu Hassan, qui fait face à des divisions internes au sein du parti au pouvoir depuis sa prise de fonction l'année dernière, a remanié de manière inattendue son gouvernement dimanche soir. En Somalie, au moins 20 personnes ont été tuées et 36 autres blessées dans la ville de Beledweyne, dans le centre du pays, à la suite de 3 attentats à la voiture piégée. Le gouvernement annonce aussi la mort d'un des plus hauts dirigeants des Shebab dans une frappe aérienne. Nani Tetalani.
Les terroristes ont mené des attaques suicides en utilisant 2 véhicules remplis d'explosifs à environ 300 km au nord de la capitale Mogadiscio, déclare Mohamed Moualim Ali, commandant de police dans la région du Hiran. La 3e voiture piégée a explosé alors qu'elle se dirigeait vers la même cible où les 2 explosions ont eu lieu plus tôt dans la journée. Parmi les personnes tuées figurent le gouverneur adjoint de la région de Hiran, Aboubakar Sheikh Madé, et le ministre de la Santé de la région, Zakarieh Mohamed Ahmed. L'attaque a été revendiquée par les islamistes Shebab qui combattent le gouvernement somalien depuis 15 ans. Par ailleurs, les autorités somaliennes ont annoncé ce lundi la mort de l'un des plus hauts dirigeants des Shebab, Abdoulaye Yaré, cofondateur du groupe, tué lors d'une frappe aérienne dans le sud du pays. Il était l'un des 7 dirigeants placés par les États-Unis sur leur liste des personnes les plus recherchées. Washington avait mis à prix sa tête pour 3 millions de dollars.
Les rebelles du Tigré affirment avoir retiré leurs troupes des zones qu'ils occupaient dans la région voisine de la Mara, au sud, pour faire face à l'offensive conjointe des forces de l'Éthiopie et de l'Érythrée plus au nord. Les précisions avec Jacques Aristide.
Une modification de l'emplacement et de la direction de nos troupes a été jugée nécessaire pour affronter les forces conjointes d'invasion, indique le commandement central des forces rebelles du Tigré dans un communiqué publié hier soir. Les rebelles ajoutent que sur le front sud, ils ont donc évacué les zones de la région de l'Amara où ils étaient entrés. La décision a été mise en œuvre ces 3 derniers jours, précise le communiqué. Après 5 mois de trêve, les combats ont repris fin août entre le gouvernement fédéral éthiopien, épaulé par les forces et des milices de la région Amara, et les rebelles tigréens. Le régime d'Asmara, ennemi juré des rebelles du Tigré, prête main forte aux troupes éthiopiennes, comme il l'avait déjà fait lors de la première phase du conflit déclenché en novembre 2020, durant laquelle les troupes érythréennes ont été accusées de multiples exactions. Les zones des combats sont interdites aux médias et il n'a pas été possible dans l'immédiat de vérifier les assertions des rebelles tigréens.
Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a exhorté lundi le monde à agir à l'occasion de la prochaine COP27 afin de prévenir des catastrophes climatiques et sauver l'espèce humaine. Il s'agit pour nous d'une question de vie ou de mort, a lancé M. Guterres depuis New York à l'ouverture à Kinshasa d'une réunion préparatoire à la conférence sur le climat, la COP27 de novembre en Égypte.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le prix Nobel de médecine a été décerné ce lundi au pionnier de la paléogénomique, Svante Paabo. Le Suédois a été récompensé pour le séquençage complet du génome de l'homme de Néandertal. Le point avec Abdulrahman Dia.
Le jury Nobel salue les travaux de Svante Paabo qui ont révélé les différences génétiques qui distinguent tous les humains vivants des homininés disparus. Il note que ces découvertes ont donné la base à l'exploration de ce qui fait de nous, humains, des êtres aussi uniques. Grâce au séquençage d'un os retrouvé en Sibérie en 2008, il a également permis de révéler l'existence d'un autre homininé distinct et inconnu jusqu'alors, l'homme de Denisova, qui vivait dans l'actuelle Russie et en Asie. Ces recherches ont permis de déterminer que le flux ancien des gènes vers l'homme actuel a une pertinence physiologique aujourd'hui, par exemple en affectant la façon dont notre système immunitaire réagit aux infections. Ces travaux avaient ainsi récemment montré que les malades du COVID-19 portant un segment d'ADN de Néandertal en Europe et plus en Asie du Sud-Est sont plus à risque de complications sévères. Les différences génétiques entre Homo sapiens et nos plus proches parents éteints aujourd'hui étaient inconnues jusqu'à ce qu'elles soient identifiées grâce aux travaux de Paabo, a noté le comité Nobel dans sa décision.
Le président Joe Biden et son épouse Jill se rendent lundi à Porto Rico, ravagé en septembre par l'ouragan Fiona, afin de montrer leur solidarité avec ce territoire américain dont la population s'est plainte d'être négligée après les catastrophes naturelles passées. Les Biden se rendront ensuite mercredi en Floride pour évaluer les dégâts dévastateurs causés par l'ouragan Ian. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken entame lundi en Colombie une tournée en Amérique latine. Le déplacement de M. Blinken intervient au lendemain du premier tour de la présidentielle au Brésil, opposant le chef de l'État sortant Jair Bolsonaro à l'ex-président de gauche Luiz Inácio Lula da Silva. M. Blinken a salué la bonne tenue du scrutin et dit espérer que le second tour se tiendra dans le même esprit de la paix et de devoir civique. Les députés russes ont approuvé lundi à l'unanimité la loi sur l'annexion de 4 régions ukrainiennes, une décision qui avait déjà été approuvée par le président Vladimir Poutine, mais dénoncée par Kiev et ses alliés. Vous suivez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. Dans votre actualité économique en Afrique et ailleurs, suivez Nathalie Barge dans la Minute Éco.
Ouverture ce lundi à Kinshasa d'une réunion préparatoire à la conférence sur le climat de novembre en Égypte. Pendant 2 jours, cette pré-COP 27 va réunir dans la capitale congolaise les ministres de l'Environnement et experts d'une 60aine de pays. Ils vont discuter des négociations sur le climat, dont la question du financement des pays les moins pollueurs. Des rencontres sont prévues entre Africains, Asiatiques, Européens et Américains. Les États-Unis sont représentés par leur envoyé spécial pour le climat, John Kerry. Selon le président du Conseil des ministres de l'UEMOA, Sani Yaya, les pays membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine tablent sur une croissance économique de 5,6% au quatrième trimestre 2022, soit une hausse par rapport à celle estimée précédemment. Le contexte de tensions internationales induit de fortes tendances inflationnistes avec un taux d'inflation en glissement annuel de 5,9% au mois de juillet 2022, a souligné M. Yaya. La Banque ouest-africaine de développement et la Haute Autorité de prévention et de lutte contre la corruption au Togo ont conclu un accord. Il s'agira notamment de combattre la corruption dans les opérations transfrontalières à travers un système d'échange d'informations. Ce partenariat entre les deux institutions est d'une durée de 5 ans renouvelable.
Et sans transition, nous passons à votre page d'espoir avec Yacouba Ouédraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Eric, bonsoir à tous.
Football pour commencer avec les éliminatoires de la CAN des moins de 17 ans.
Oui, c'est la zone UFOA-A qui joue sa qualification en Mauritanie. Et dans le groupe A, très mauvaise entame du pays hôte, corrigée 3-0 par la Sierra Leone. Entrée réussie par contre pour le Sénégal, net vainqueur 6-0. Du Cap-Vert, la suite des matchs aujourd'hui. Et les Cap-Verdiens essaient de se relancer devant les Maliens, pareil pour la Mauritanie opposée au Libéria. À noter que seul le vainqueur du tournoi représentera la zone pour la phase finale de cette CAN des moins de 17 ans, prévue en 2023 en Algérie.
Direction l'Algérie, justement, où s'est déroulé le tirage au sort du prochain championnat d'Afrique des Nations.
Ou simplement le CHAN, une compétition réservée aux joueurs locaux et qui se jouera pour la prochaine fois avec 18 équipes. Le pays hôte, l'Algérie, se retrouve dans un groupe A qui semble à sa portée, avec la Libye sacrée en 2014, l'Éthiopie et le Mozambique, tandis que le Maroc, double tenant du titre, aura pour adversaire dans le groupe C le Soudan, le Ghana, puis le novice Madagascar. Le Mali, finaliste malheureux de la précédente édition, est dans le groupe D avec l'Angola et la Mauritanie. La République démocratique du Congo, deux fois vainqueur du tournoi en 2009 et 2016, se retrouve dans le groupe le plus relevé avec la Côte d'Ivoire, le Sénégal et l'Ouganda. Enfin, dans le dernier groupe, nous avons le Cameroun, le Congo et le Niger. Ce septième CHAN se déroulera du 13 janvier au 4 février 2023.
Handball, avec la suite des matchs du championnat d'Afrique des clubs champions en Tunisie.
Troisième match et troisième défaite pour les Flowers du Bénin. Chez les hommes, battus 39-19 par l'Espérance de Tunis, et les dames s'inclinent 16-33 devant les Algériennes d'El Bia. Sale soirée aussi pour les Camerounaises de FAP et de TKC, battues respectivement par les Ivoiriennes d'Abita 27-26 et les Congolaises de DGSP 39-30. Chez les hommes, rien n'arrête les Cadors qui continuent leur sans-faute. À la Ligue du Caire, vainqueur des Algériens de Touta 36-17. Le Zamalek victorieux 34-25 du Mouloudia d'Alger. Et le club africain qui a battu Red Star 33-26.
Volleyball à présent avec le mondial féminin qui se joue au Pays-Bas.
Contre-performance pour les représentants africains qui occupent les deux dernières places du groupe A à l'issue de la phase de poule. 3 défaites en 4 matchs pour le Kenya, mieux que le Cameroun qui a perdu toutes ses rencontres. La dernière hier 3-7-0 devant la Belgique. Pour la suite, Camerounaises et Kenyanes disputeront des matchs pour améliorer leur classement.
Et c'est tout pour les sports. Merci Yakuba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. De retour avec vous, Eric Manirakiza. Place au dossier du jour. Au Burkina Faso, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba a démissionné hier dimanche après 2 jours de tension. Son départ était réclamé à Ouagadougou par des manifestants favorables au capitaine Ibrahim Traoré, 34 ans, qui avait annoncé sa destitution vendredi. Le capitaine Traoré, nouvel homme fort du Burkina, parle d'une transition civile ou militaire à mettre en place. Sur la question, Yakuba Ouédraogo, adjoint à Ouagadougou, Bokari Ouoba, journaliste et analyste bimensuel d'investigation, le reporter.
Une transition inclusive surtout, parce que s'il y a bien quelque chose qui a manqué à la transition qui vient de prendre fin, c'est bien l'inclusivité. Il y a eu ce qu'on a appelé les assises nationales qui ont consisté en l'adoption d'une charte de transition et puis après on a mis en place les organes de la transition. Le véritable problème, c'est que ces assises-là déjà n'avaient pas du tout été consensuelles. Des acteurs très importants avaient été écartés. Il y a eu des alertes. Malheureusement, les autorités n'ont pas voulu entendre raison.
De qui parlez-vous?
Un certain nombre d'organisations de la société civile. Tout le monde connaît d'une certaine manière le palais citoyen. Et il y a les anciennes organisations de la société civile, ou bien en tout cas des associations qui avaient eu un rôle très important sous la gouvernance de Roch Marc-Christian Kabore, le MBDHP, le RENLAC, CIFIDA, CGD. Toutes ces organisations, d'une manière ou d'une autre, avaient été donc éloignées de la transition du président Damiba. On a pensé à un certain moment que c'est pour garder une sorte de neutralité vis-à-vis de ceux qui ont fait l'insurrection, mais aussi de ceux qui ont subi l'insurrection. Mais on s'est rendu compte qu'à la vérité, Damiba était venu plutôt pour réhabiliter ceux qui avaient été victimes d'une certaine manière de l'insurrection.
Damiba a invoqué l'insécurité grandissante pour déposer Roch Kabore. Le capitaine Ibrahim Traoré invoque aussi en partie les mêmes raisons. Quel serait l'impact dans la lutte contre le terrorisme?
Ce que les populations attendent de voir, c'est surtout de la volonté de combattre les terroristes et de mettre la sécurité comme étant effectivement la priorité principale du régime de transition. Cela ne garantit pas forcément des succès, plus que ce qu'on a déjà eu de par le passé. Mais la volonté, de mon point de vue, suffirait plus ou moins à rassembler les Burkinabés autour de la transition. Ce n'est pas tant parce que Damiba n'avait pas de résultats sur le plan de la lutte contre le terrorisme que les Burkinabés se sont soulevés et même ses camarades contre lui. Mais c'est surtout parce qu'on a senti, par cette décision, que cette question sécuritaire, finalement, n'était même pas du tout une priorité pour le président Damiba.
Le capitaine Ibrahim Traoré a évoqué la possibilité de traiter avec d'autres partenaires, en dehors de, bien sûr, de la France. Tout de suite, allusion est faite à la Russie. Qu'est-ce que vous en pensez?
Ce n'est pas du tout nouveau par rapport à ceux qui l'ont précédé. Roch Marc-Christian Kabore a dit la même chose. Même le président Damiba a dit la même chose. Jusqu'ici, le partenaire traditionnel qui est connu, c'est la France. Mais tous ces deux anciens chefs d'État ont évoqué la possibilité de coopérer avec d'autres et notamment avec la Russie. Maintenant, est-ce qu'il ira plus loin en privilégiant effectivement la coopération avec la Russie plus qu'avec la France? C'est peut-être là où il faut attendre de voir.
À quel type de rapport faut-il s'attendre entre la nouvelle transition qui va être mise en place et la communauté internationale, en particulier la CEDEAO?
Damiba avait eu plus ou moins du succès parce que la communauté internationale et notamment la CEDEAO était beaucoup plus compréhensive avec les militaires burkinabés qui ne le sont avec les Guinéens ou bien les Maliens. Et donc, de mon point de vue, tout ce que le Burkina a à faire, c'est de respecter le calendrier que la CEDEAO avait déjà réussi à établir avec le président Damiba, à savoir donc une transition qui va prendre fin au plus tard en fin juillet 2024. Et je crois que ça reste toujours possible.
Bokari Ouoba, journaliste et analyste au bimensuel d'investigation, le reporter à Ouagadougou.
Abdourahmane Dia avec vous. Dans Washington Forum cette semaine, le deuxième coup d'État au Burkina Faso en l'espace de 8 mois. Le capitaine Ibrahim Traoré a pris le pouvoir, poussant le lieutenant-colonel Damiba à rendre le tablier et à s'exiler au Togo. Dans les deux putschs, les auteurs citent l'insécurité comme principale cause de leur action. Mais le nouveau maître de Ouagadougou évoque également la nécessité de se tourner vers d'autres partenaires prêts à aider dans la lutte contre le terrorisme. Quels enseignements tirer de ces derniers pluies de bottes à Ouagadougou? Rendez-vous ce jeudi à 19h temps universel sur VOA Afrique et voaafrique.com.
Au Tchad, les travaux du dialogue national inclusif et souverain se poursuivent, mais les participants ne s'entendent pas sur l'éligibilité des autorités de transition, le délai de transition post-dialogue de 24 mois et la forme de l'État proposée par la commission ad hoc mise en place par le Présidium. Une proposition qui a amené l'Union africaine à rappeler les autorités de transition au respect de leur engagement, celui de rendre le pouvoir aux civils dans un délai de 18 mois. Différentes réactions des acteurs dans ce reportage de André Kodmajingar, correspondant de VOA Afrique à N'Djamena.
Nous voudrions rassurer l'opinion que les membres du Conseil militaire de transition vont rendre le pouvoir à un gouvernement civil à l'issue des élections libres et démocratiques dans un délai de 18 mois.
Le général Dimadoum Tchirénan, vice-président du Conseil militaire de transition, au lendemain de leur prise du pouvoir en 2021, devant les partenaires et les diplomates accrédités au Tchad. 18 mois après, un plan de dynastie semble être mis en route. La commission ad hoc foule au pied la charte africaine des droits de l'homme et donne carte blanche au chef de la junte militaire de conserver le pouvoir. L'Union africaine appelle au respect de la période de transition qui est de 18 mois et rappelle qu'aucun membre du Conseil militaire de transition ne pourra être candidat aux prochaines élections. Réaction de quelques participants du dialogue national inclusif et souverain.
Nous, on n'a pas connu le coup d'État comme dans d'autres pays où l'Union africaine dit que l'organe mis en place ne peut pas être éligible. Non, nous, on a eu un cas de mort subite et dans ce cas, le PSMT et les membres du gouvernement sont éligibles.
Ce communiqué n'engage que le signataire, Moussa Faki Mahamat. Il est en train de scier la branche sur laquelle lui-même il est assis. Nous savons que Moussa Faki Mahamat a un agenda caché. Il a des cadavres dans son placard. Il n'est pas un donneur de leçons pour nous.
Pour d'autres citoyens, le Tchad n'est pas une monarchie et l'Union africaine a raison, même si elle s'est réveillée tard.
Nous, les Tchadiens, on n'accepte pas que la transition continue. L'Union africaine a quand même décidé de changer l'avenir du Tchad.
Moi, je suis maintenant pour que le Tchad soit suspendu d'ailleurs même de l'Union africaine. Nous ne voulons pas que notre pays, le Tchad, soit comme les autres pays. Nous voulons la paix.
Jusqu'au 20, Mamad Kaka doit partir et puis laisser la transition à un civil. Sinon, tout ce qui adviendra dans ce pays-là, ceux qui ont manigancé les trucs pour lui, là, seront les seuls et uniques responsables. C'est quoi ce connerie comme ça là?
En ce qui concerne la forme de l'État, même les ex-politico-militaires ne s'entendent pas.
Nous optons pour un État unitaire, décentralisé, avec transfert effectif des compétences et des ressources.
La fédération, c'est notre salut. N'ayez pas peur, entrez dans l'espérance, parce que l'État unitaire décentralisé a échoué.
Béral Mbaïkoubou, conseiller national et partisan du fédéralisme, estime qu'un peuple ne peut faire nation que lorsqu'il est arrimé à un socle commun de valeurs.
Les hommes et les femmes dans une société ne peuvent faire nation que lorsque leurs tables de valeurs morales ne sont pas aux antipodes les unes des autres. Est-ce que le Tchad répond à ces critères cardinaux de ce que c'est qu'une nation? Honnêtement, non. Et donc, le fédéralisme est la bouée de sauvetage qui peut donner à chacun un espace pour exprimer sa spécificité. Nous ne pouvons pas fonder une société si nos valeurs sont opposées.
Le dialogue dans son format voulu par les autorités de transition se déroule pendant que les hôpitaux publics et les juridictions sont fermés sur toute l'étendue du territoire national, ainsi que l'intensification des violences intercommunautaires dans plusieurs provinces du pays. André Kodumadjingar N'Djamena pour VOA Afrique.
Votre rendez-vous quotidien 24h/24 sur VOA Afrique, N'Djamena au Tchad sur 93.1 FM.
La RDC accueille dès ce lundi à Kinshasa la pré-COP27. Il s'agit de la rencontre des ministres de l'Environnement et des experts sur le climat pour préparer la conférence sur le climat de novembre prochain en Égypte. Lors de ces assises, la RDC voudrait saisir l'occasion pour interpeller les partenaires financiers sur leurs engagements en faveur des pays du bassin du Congo. Les détails avec notre correspondant à Kinshasa, Alex Kati Kataï.
La centaine des ministres de l'Environnement et ou de l'Énergie venus du monde entier qui se retrouvent à Kinshasa de ce lundi travailleront sur plusieurs thématiques. Cette pré-COP 27 sera aussi l'occasion de faire le point sur ce qui a été fait depuis la COP 26, mais pas seulement. Tosi Mpanou-Panou, négociateur de la RDC sur le climat.
Il y aura bien entendu l'adaptation, qui comme vous savez est la priorité des pays africains, qui estiment qu'eux n'émettent pas trop de gaz à effet de serre, mais sont victimes des effets néfastes de ce changement climatique. Donc l'adaptation est une thématique sur laquelle les ministres vont également s'appesantir. La question des pertes et préjudices, très importante pour les petits États insulaires en développement, ainsi que les pays les moins avancés. Et bien entendu, l'argent, le nerf de la guerre, la finance climat.
La RDC profitera de cette pré-COP pour montrer ce qu'elle fait comme effort dans la préservation des forêts. Les partenaires financiers seront mis devant leurs responsabilités afin de tenir leurs engagements. F. Bazaïba, ministre de l'Environnement de la RDC, expliquait il y a un mois que la RDC et ses populations forestières ont droit à une compensation à la hauteur de leurs efforts. C'était lors de la conférence scientifique internationale sur la contribution des forêts tropicales à la lutte contre le changement climatique à Yangambi, au nord de la RDC.
Cette population en qualité de protecteur justement de cette solution basée sur la nature que recherche l'humanité pour faire face aux enjeux du climat. Si on considère aujourd'hui que Yangambi c'est l'un des échantillons de la RDC pays solution, alors les protecteurs de ces forêts, les protecteurs de ces ressources en eau, les protecteurs de cette biodiversité qui constitue la population a droit à une compensation.
La RDC, pays solution, espère toujours que ces populations bénéficieront des moyens pouvant leur permettre de sortir de la pauvreté, qui est l'une des causes de la déforestation. Ces populations se privent des moyens de subsistance au profit de l'humanité. On doit leur offrir des alternatives solides pour leur permettre de bien protéger les forêts. Professeur Joseph Malassi, expert et conseiller du gouvernement sur le climat.
La pauvreté fait qu'on n'a pas assez d'électricité, accès à l'énergie. S'il y a une réponse à la question de l'énergie, s'il y a une réponse à la question de l'extrême pauvreté, s'il y a des alternatives pour les populations de ce pays et pour les populations qui vivent des forêts et dans les forêts, nous croyons qu'il sera possible de baisser le rythme de la déforestation et de préserver les forêts pour l'intérêt de l'humanité.
Lors de la COP 26 tenue à Glasgow en novembre 2021, la communauté internationale avait réaffirmé son objectif de contenir le réchauffement de la planète à 1,5 degré Celsius par rapport à l'ère pré-industrielle. Cet objectif est aujourd'hui hors d'atteinte. La crise russo-ukrainienne ayant obligé certains pays à recourir aux sources d'énergie plus polluantes, déplore Tosi Mpanou-Panou. Alex Katik Ataï, Kinshasa, VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 en RDC, à Lubumbashi évidemment sur le 102.8 FM.
L'ouragan Ian a balayé le sud des États-Unis la semaine dernière. Le président Joe Biden et la première dame Jill Biden se rendent dans les zones dévastées alors que le pays est sous le choc en raison du nombre de morts, des inondations et destructions causées par la tempête. Le reportage de Arash Arabassadi, le récit signé Jacques Aristide.
L'ouragan Ian a touché terre mercredi dernier en Floride. Il a été l'un des plus violents jamais enregistrés aux États-Unis. Environ 2,5 millions de personnes avaient reçu des ordres d'évacuation. Classé en catégorie 4, Ian a entraîné des vents atteignant jusqu'à 240 km à l'heure. Des inondations ont suivi et plus de 2 millions de foyers d'entreprises de Floride ont été privés de courant. Selon Ron DeSantis, le gouverneur républicain de Floride, la montée des eaux aurait pu atteindre jusqu'à 3,5 mètres dans certaines régions. Dès le lendemain, le président Joe Biden s'est rendu au siège de la FEMA, l'agence fédérale américaine de gestion des urgences. Un extrait de son intervention tel que rapporté par l'Associated Press.
Cela pourrait être l'ouragan le plus meurtrier de l'histoire de la Floride. Les chiffres ne sont toujours pas clairs, mais nous entendons les premières informations sur ce qui pourrait être une perte de vie importante.
Les efforts de sauvetage au niveau fédéral et local se poursuivent, mais l'administration Biden affirme qu'il est tout simplement trop tôt pour fournir un bilan définitif. Vu la trajectoire imprévisible qu'a prise l'ouragan quelques heures avant de toucher terre. Diane Criswell, administratrice de la FEMA, était invitée dimanche dans le programme This Week de la chaîne ABC.
La reprise va prendre beaucoup de temps. De nombreuses personnes sont touchées.
Mais nous savons également que nous sommes toujours activement engagés dans la phase de recherche et de sauvetage, en essayant de tenir compte de tous ceux qui se trouvaient sur le passage de l'ouragan et de passer par chaque maison pour nous assurer de n'oublier personne.
Les élus républicains de Floride, souvent en désaccord ouvert avec l'administration Biden, louent les opérations de secours menées tant au niveau fédéral que local. Marco Rubio, sénateur républicain de l'État, lors de l'émission This Week d'ABC.
La réponse fédérale dès le premier jour a été très positive, comme elle l'a toujours été par le passé.
C'est sur ce reportage de Jacques Aristide que nous mettons un point final à cette édition. Merci de votre fidélité à Voix Afrique. Je vous retrouve dans 30 minutes dans Le Monde Aujourd'hui. À tout de suite.